Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles. Quasiment au milieu, en fait. Vous savez que quand on ouvre, presque au milieu, c'est les psaumes. Et puis juste après, il y a les proverbes. Et ensuite, il y a le livre de l'Ecclésiaste. Et ensuite, il y a le livre du Cantique des Cantiques. Et nous allons donc lire une partie dans ce livre, au chapitre 6, les versets, chapitre 6, versets 2 à 8, verset 4. Nous lisons donc la parole de Dieu, Cantique des Cantiques 6, verset 2 au chapitre 8, verset 4. Mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'aromates, pour faire paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Tu es belle, ma compagne, comme Tirza, charmante comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres dévalant du Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remonte de l'abreuvoir. Elles ont toutes leurs sœurs jumelles, aucune d'elles n'en est privée. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Les reines sont 60, les concubines 80, les jeunes filles sont innombrables, uniques, et ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la plus resplendissante pour celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse, les reines et les concubines aussi, et la louent. Qui est celle-ci qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, mais terrible comme des troupes sur leur bannière? Je descends au jardin des noyers pour voir les jeunes pousses du ravin, pour voir si la vigne bourgeonne, si les grenadiers fleurissent. Je ne sais, mais mon désir me rend semblable au char de mon noble peuple. Reviens, reviens, Sulamite, reviens afin que nous te contemplions. Qu'avez-vous à contempler la Sulamite comme une danse de deux troupes? Que tes pieds sont beaux dans tes sandales, fille de noble. Les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvre des mains d'un artiste. Ton ventre est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un amas de froment entouré de lys. Tes deux seins sont comme deux petits jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs de Heshbon, près de la porte de Bat-Rabim. Ton nez est comme la tour du Liban, qui veille du côté de Damas. Ta tête se dresse comme le Carmel, et les nattes de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est enchaîné dans leur ondulation. Oh, que tu es belle, que tu es aimable, mon amour, mes délices. Ta stature ressemble au palmier et tes seins à des grappes. J'ai dit, je monterai au palmier, j'en saisirai les fruits. Que tes seins soient comme des grappes de raisin, le parfum de ton souffle comme celui des pommes et ta bouche comme le vin du bonheur. Il coule tout droit pour mon bien-aimé. Il glisse sur les lèvres de ceux qui dorment. Je suis à mon bien-aimé, et ses désirs se portent vers moi. Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, passons les nuits dans les villages. Au petit matin, nous irons au vignoble, voir si la vigne bourgeonne, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai ma tendresse. Les mandragores exhalent leur parfum, et nous avons à nos portes tous les fruits exquis, les nouveaux comme les anciens. Mon bien-aimé, je les ai réservés pour toi. Oh, si tu étais mon frère, nourri au sein de ma mère, je te rencontrerais dehors, je t'embrasserais et l'on ne me mépriserait pas. Je te conduirais, je t'introduirais dans la maison de ma mère, tu m'instruirais et je te ferais boire du vin parfumé, du jus de mes grenades. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, n'éveillez pas. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le souhaite. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. lorsque deux tuyaux... C'est bon, vous les voyez là ? Lorsque deux tuyaux ne sont pas raccordés, l'eau ne peut pas passer de la source à la fontaine. De même, si nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu par l'œuvre du Christ, le Saint-Esprit qui est le raccord du tuyau de la grâce de Dieu et le tuyau qui mène à notre vie ne peut agir. Nous avons besoin de ce raccord pour recevoir l'eau de la vie, de la parole, pour ensuite aussi le partager. Donc je prie que chacun ici soit réconcilié avec Dieu par Christ et que nous soyons guidés par le Saint-Esprit ce matin pour méditer sur sa parole. Et nous continuons la série de prédications-expositions sur le livre du Cantique des Cantiques inspiré par le Saint-Esprit. Un livre qui est utile et important de bien saisir dans notre culture hypersexualisée qui présente le corps comme un outil de séduction pour tout, même pour se séduire soi-même et construire sa propre identité. Mais la sexualité a été créée par Dieu pour un cadre bien défini, en dehors duquel ce n'est pas le bonheur qui en résulte, mais la frustration et la demande de toujours plus, car la satisfaction ne sera jamais assouvie. Le Cantique des Cantiques nous donne une image intense et magnifique de l'amour dans un couple et dirige nos regards également vers la relation avec Christ. Donc le Cantique des Cantiques nous donne une image intense et magnifique de l'amour dans un couple et dirige nos regards également vers la relation avec Christ. Alors comme à chaque prédication de cette série, j'aimerais rappeler quelques éléments que nous avons vus pour comprendre la direction de notre cheminement. Ainsi, ceux qui entrent dans le livre par cet enseignement auront aussi les éléments clés, et pour les autres, bien la répétition permet de mieux l'ancrer dans notre mémoire. Alors maintenant, vous commencez à savoir qu'est-ce que je vais dire. Donc premièrement, ce texte est un chant d'amour oriental. Ce n'est pas un récit prophétique. C'est un type de poésie de sagesse écrite sous forme d'un chant. Deuxièmement, dans ce chant d'amour, nous entendons deux personnes qui s'aiment nous raconter et nous faire vivre leur amour avec parfois un cœur ou une voix qui se fait entendre. Troisièmement, nous voyons un texte qui parle de deux personnes réelles qui ont vécu ce qu'il chante. Il s'agit de Salomon dans son premier mariage, et c'est avec la Sulamite, on en reparlera d'ailleurs aujourd'hui. Nous y voyons des éléments utiles pour réfléchir à la vie de couple, s'y préparer, la vivre et l'encourager. Même pour les célibataires qui soit un jour le vivront ou sont de toute façon à côté de personnes qui le vivent. Quatrièmement, ce texte est aussi un type, une figure, une image qui pointe vers une relation spirituelle entre Christ et l'Église, entre Dieu et nous. Et cinquièmement, nous avons distingué trois parties principales dans ce livre. La première, c'était l'amour pendant les fiançailles, jusqu'au chapitre 3, verset 5. Et nous avons vu deux prédications. L'une était intitulée « L'éveil de l'amour » et l'autre « L'engagement de l'amour ». Ensuite, la deuxième partie qui était l'union, le mariage, jusqu'au chapitre 5, verset 1. Et nous avons vu cela en une prédication que j'avais intitulée « L'entrée dans l'amour ». Et la troisième partie est la vie commune des bien-aimés. Nous avons déjà vu la dernière fois la synchronisation dans l'amour. Nous continuerons aujourd'hui avec la délectation de l'amour et nous terminerons la prochaine fois par le fondement de l'amour. En fait, le mariage, en général, et je peux quasiment être sûr qu'aucune personne mariée ne me contredira ici, le mariage est parsemé de temps de synchronisation. Le mariage est parsemé de temps de synchronisation, la compréhension n'est pas toujours au rendez-vous. Mais quelle joie lorsque le couple se retrouve et vit une intimité encore plus profonde, plus intense, ayant surmonté la difficulté du moment et vivant dans un état de réconciliation. Bon, elle était longue celle-là, puis il y a des choses à noter, donc je vais la redire. Le mariage est parsemé de temps de synchronisation. La compréhension n'est pas toujours au rendez-vous, mais quelle joie lorsque le couple se retrouve et vit une intimité encore plus profonde et plus intense, ayant surmonté la difficulté du moment et vivant dans un état de réconciliation. Nous allons voir deux parties dans le texte que nous exposons aujourd'hui. La première nous montrera en fait la réconciliation dans les versets 2 à 12 du chapitre 6. Et la deuxième partie nous présentera le délice d'une relation réconciliée dans un couple. Vous vous souvenez peut-être que nous avons parlé la dernière fois que même si le Cantique des Cantiques nous parle de l'amour au superlatif, il ne passe pas sous silence lorsque le couple n'est pas synchronisé. Il est venu vers elle, désirant vivre l'intimité, elle l'a repoussé, il est parti. Et ensuite, elle a regretté, mais il n'était plus là. Elle l'a cherché et les filles de Jérusalem, par leurs questions, l'ont aidé à retrouver le chemin vers son bien-aimé. En fait, ils n'étaient pas vraiment séparés physiquement, mais émotionnellement. Et elle va maintenant le retrouver dans le jardin de leur relation. Entrons dans notre premier point intitulé « La réconciliation ». Alors, nous allons voir trois aspects qui me semblent être développés dans le texte. Le premier sera les versets 2 et 3, qui fera le lien avec la dernière fois, que j'appelle un lieu commun. Deuxième élément, c'est l'accueil dans l'affirmation de l'amour, les versets 4 à 10. Et puis ensuite, les versets 11 et 12, le rétablissement. Alors maintenant que vous avez la structure de ce que nous allons relever, voici la paraphrase du texte. Maintenant, vous avez l'habitude, hein, je le fais chaque fois. La paraphrase du texte du Cantique des Cantiques 6, 2 à 12, c'est un résumé explicatif et vous pouvez regarder dans votre Bible en même temps. Je ne vais pas dire tout ce qui est écrit, mais ça permet d'avoir une idée. Une chose encore, sur les papiers que vous avez pu prendre derrière, vous pouvez voir quand c'est lui et elle qui parlent. Parce qu'en fait, en lisant le texte, souvent, on ne sait pas trop qui parle. Enfin, quand je l'ai lu tout à l'heure, je me suis rendu compte que je ne vous ai pas dit qui parlait où. Parce qu'en fait, en français, on n'a pas les éléments qui nous permettent de le savoir. Donc là, comme il y a des éléments en hébreu qui permettent de savoir si c'est un homme ou une femme qui parle, eh bien, on peut trouver qui parle à quel moment. Et vous avez donc au dos de votre feuille les moments où qui parle. Donc là, maintenant, je vais le paraphraser en disant « qui parle ». Donc elle dit, elle chante, hein, c'est un chant d'amour, elle chante. « Je sais où est mon bien-aimé, il soigne notre relation, il a des pensées bienveillantes, il pense à moi, je suis à lui et il est à moi. » Et lui répond en chantant, hein, « Le plus beau des lieux qui m'émerveille et m'époustoufle me rappelle ta beauté. Tout n'est pas toujours facile avec toi qui revient te faire pardonner, mais l'amour que j'avais pour toi au premier jour n'a pas fané. Il y a beaucoup de femmes qui nous entourent, mais tu es mon unique et tous le reconnaissent. Toi, ma belle, reviens-tu vers moi en amie ?» Et elle de répondre, « Je reviens dans notre relation, voir où tu en es, et cette fois, mon désir est bien présent. » Vous dites, « Oh là, c'est pas tout à fait ce qu'on a lu tout à l'heure. » Bah ouais, faut un peu travailler le texte pour comprendre tout ça, évidemment, mais ça vous permet d'avoir la direction hein, qu'on va prendre. Donc, on va maintenant prendre ces versets 2 et 3 que j'appelle un lieu commun. Comme nous l'avons vu la dernière fois, lorsque la compagne réfléchit à son bien-aimé et se souvient de son amour, de qui il est et de leur relation, vous rappelez, elle a dit qui il était, elle a décrit hein, sa personne, eh bien à ce moment-là, elle n'est plus désorientée. Ayant passé par la station d'épuration, par la confession, la repentance, en saisissant par la foi l'œuvre de Christ, elle a retrouvé les qualités de son mari, comme nous l'avons vu la dernière fois. Et la compagne retourne dans le jardin de la relation avec celui avec qui elle s'est mariée. Elle rappelle qu'elle est à son bien-aimé et celui-ci est à elle. C'est un don réciproque, l'un à l'autre, comme Paul le dira plus tard. Chacun appartient à l'autre et les deux appartiennent à Christ. Ce petit refrain que l'on voit ici, « Je suis à lui et il est à moi », sous diverses formes, on pourrait dire que c'est comme le rappel des promesses de mariage, quelque part, des fondements. Alors, que peut-on retirer ici pour les couples ? Pour les couples, il est important d'avoir un fondement solide sur lequel nous pouvons revenir, un jardin relationnel avec de bonnes fondation. Pour le couple, il est important d'avoir un fondement solide sur lequel nous pourrons revenir, un jardin relationnel avec des bonnes fondations. Se rappeler ce qu'est le mariage, le lien que cela implique, les promesses que nous avons faites et entendues et que nous sommes appelés à tenir, bien entendu en cherchant la force et appui auprès de Dieu. De se souvenir de ces choses pour y revenir, pour continuer à construire. Alors, c'est vrai qu'en préparant cette prédication, j'ai eu la curiosité de chercher les promesses que j'avais faites à mon épouse. Je ne les ai pas retrouvées parce que je les avais écrites à la main, quelque part. Mais j'ai retrouvé une vidéo VHS qui a été numérisée de notre mariage. Donc j'ai été la visionner pour retrouver les paroles que j'avais dites en 1999. Et je les ai envoyées à Marlise. Il faut qu'on s'en souvienne. Vous aimeriez les entendre, mais je ne les ai pas notées. Je viendrai vers moi après, je pourrais vous les dire. Oh ben, vous allez vers Marlise aussi. Mais il est bon et important de se souvenir de ce pourquoi nous nous sommes engagés et de continuer à construire sans reposer constamment les bases, mais en se les rappelant. On ne va pas poser les bases à nouveau, on va se les rappeler pour les vivre. Remarquez que la compagne revient dans le jardin des relations. Elle n'attend pas quelque part en se disant que si son bien-aimé l'aime, il viendra la chercher. Non, elle sait qu'il est dans le jardin de leur relation et elle y va. Quelques réflexions pour notre relation spirituelle. Quelle joie lorsque nous réfléchissons à notre relation spirituelle. Pour ceux qui sont nés de nouveau, faisant partie de l'Église, que Jésus aime. Étant donné que c'est son épouse. Nous pouvons donc revenir dans le jardin de la relation avec Jésus-Christ. Nous pouvons nous rappeler que nous sommes à lui et qu'il est à nous. Or, si nous n'avons pas fait des promesses lors d'un mariage avec Jésus, nous avons confessé la foi lors de notre baptême, qui est l'entrée visible dans l'Alliance. Si nous n'avons pas fait de promesses lors d'un mariage avec Jésus, nous avons confessé la foi lors de notre baptême, qui est l'entrée visible dans l'Alliance. Et pour notre rappel, eh bien, j'aimerais simplement vous lire la confession de baptême que les baptisés lisent ici et sont d'accord avec lorsqu'ils se font baptiser. Comme ça, ça fera un rappel. Et dans un sens, c'est comme des mots d'amour que l'on dit à notre Seigneur pour revenir sur des fondements. Voici ce qui est dit. « Je crois au Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est abaissé et s'est fait homme pour devenir, par le sacrifice de sa vie, le seul sauveur des hommes. Il m'a racheté par son sang précieux de l'esclavage du péché, de la mort, et m'a donné la vie éternelle. » Jésus s'est révélé à moi par son Esprit Saint, de sorte que j'ai pu rompre avec tout péché connu et me libérer de toute liaison consciente avec le monde et contraire à la volonté de Dieu. Par la repentance et la foi en la vie parfaite, la souffrance et la mort expiatoire de Jésus, j'ai le pardon des péchés et l'assurance du salut. Je crois que Dieu a révélé une fois pour toutes sa volonté dans les Saintes Écritures. Je suis prêt à m'y soumettre dans tous les domaines. Je crois que je suis par le Saint-Esprit baptisé en la mort de Jésus, crucifié au péché, au monde et rendu à la vie par une espérance vivante, par la nouvelle naissance, afin de ne plus vivre désormais pour moi, mais pour servir le Dieu vivant et vrai et pour garder l'engagement d'une bonne conscience. J'en témoigne par le symbole du baptême par l'immersion. J'ai le fervent désir de respecter, d'encourager la communion et l'unité du corps de Christ par les liens de la paix et de l'amour. Jésus est mon maître céleste à qui j'appartiens désormais, doit pouvoir disposer de ma vie. Je suis prêt à placer les intérêts du Seigneur au-dessus des miens et à attendre avec tous les croyants le jour de sa venue glorieuse en vivant d'une manière qui l'honore. Je donne ce témoignage plein de confiance en celui qui opère en moi et la volonté et l'exécution par l'accomplissement de ses desseins d'amour. C'est ça, se rappeler les fondements, revenir dans le jardin relationnel avec Christ. Se rappelant ainsi aussi les promesses qu'il nous a faites, indiquant sa fidélité sans faille, son amour bienveillant, sa protection, sa générosité, nous pouvons aller dans ce jardin relationnel et revenir vers lui lorsque nous avons été désynchronisés. Et là, nous allons vivre quelque chose d'extraordinaire. C'est l'accueil dans l'affirmation de l'amour. C'est notre prochain point. Or, nous reviendrons à la relation avec Christ tout à l'heure. Revenons au livre du Cantique des Cantiques, duquel on part pour y réfléchir. Le bien-aimé reçoit sa compagne avec des mots d'éloge. Regardez au verset 4. Tu es belle, ma compagne, comme Tirza. Tirza veut dire grâce et beauté. Et cette ville deviendra par la suite la capitale du royaume du Nord pour quelques rois. Juste en passant ici, le fait que cette ville soit mentionnée positivement est un indice qui nous aide à comprendre que ce livre a été écrit avant le schisme du royaume du Nord et du Sud qui ont eu lieu sous le règne du fils de Salomon. Pour ceux qui disent que ça a été écrit beaucoup plus tard, ici un indice pour dire que c'est avant. Après, on n'aurait pas été si positif vis-à-vis cette ville qui était concurrente à Jérusalem. Jérusalem est une ville appelée « beauté parfaite » en Lamentations 2.15. Je dis, ben voilà, on a une définition de la ville qu'il utilise. Le problème, c'est que Lamentations, ça a été écrit après. Donc, il est possible que Jérémie fait allusion au cantique qui a été écrit avant Lamentations pour dire que Jérusalem, justement, est d'une beauté parfaite. Ce n'est pas impossible. Mais le bien-aimé ici exprime à nouveau son émerveillement devant la beauté de sa compagne qui revient à lui. Le bien-aimé exprime à nouveau son émerveillement devant la beauté de sa compagne qui revient à lui. Alors, je reste encore sur ces deux éléments. Il cherche des illustrations pour décrire sa manière de voir celle qu'il aime. Il cherche des lieux qui expriment la beauté et le charme. Alors là, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez des lieux qui vous ont couplé votre souffle par leur beauté? D'un coup, vous étiez face à une situation à vous couper le souffle. Peut-être était-ce une ville avec de magnifiques constructions, avec un coucher de soleil grandiose se reflétant sur les bâtiments. Peut-être était-ce un lieu face à un paysage majestueux, où vous ne pouviez pas vous arrêter, fasciné par les formes, les couleurs, l'atmosphère, l'ambiance. Peut-être vous pourriez dire « Tu es belle comme les Alpes d'un soir d'automne où la lumière du soleil couchant les rend majestueuses, impressionnantes et fascinantes. » Ça vous parle peut-être plus que Tirza et Jérusalem. Le bien-aimé ne voit pas sa compagne comme Tirza, la ville, mais comme la beauté qui s'en dégage avec l'impression qu'il ressent dans un magnifique tableau. Le charme de Jérusalem n'est sûrement pas seulement lié à ce qui est vu, mais également à ce qui est vécu. Il y a tout à Jérusalem, depuis le temple de Dieu au marché coloré de fruits en passant par le palais royal et la piscine de Bethesda. Ensuite, si on continue dans le texte, il dira, donc je ne vais pas tout détailler comme je viens de le faire, hein. Là je viens de le faire un petit peu plus pour nous aider à comprendre la notion. On n'a pas le temps d'aller sur chaque verset. Ça pourrait être très intéressant. Mais ensuite, il dira qu'elle est terrible comme les troupes sur leur bannière. Et ça, c'est intéressant parce qu'on retrouve cela au verset 10. C'est comme si ça entourait ce qu'il disait ici. Ça entoure ce qu'il dit ici. Alors, on y reviendra. Mais pour l'instant, soulignons que cette image indique qu'elle lui inspire aussi du respect. Ce n'est pas une beauté à consommer, à s'emparer égoïstement, mais à admirer, à respecter, à conquérir. Il y a un réel effort pour atteindre le lieu de délice. Vous remarquerez aussi que dans cette partie du chapitre 6, il n'y a pas de connotation sexuelle dans la description, dans les versets 4 à 7. Pourtant, il fait référence à ce qu'il lui a dit lors des nuits de noces. Si vous pouvez revenir en arrière. Et en fait, il lui a dit les mêmes paroles. Et s'il le fait ici, c'est pour lui rappeler que son amour est resté le même, n'a pas changé. Pour vivre une réconciliation, il y est important que dans l'éloge de l'accueil qui est donné, il n'y ait pas de désir égoïste. Et ici, il n'y a pas ces désirs-là. Il y a simplement la description de cet amour qui est toujours encore là. Les versets 8 à 9 indiquent que la compagne est unique. Unique est ma colombe, ma parfaite. Et là, on arrive sur un os. Enfin, moi, ça a été un os pour moi. Parce que moi, je vois Salomon avec sa jeune épouse, et puis il n'y a pas de concubine et de reine, etc. à ce moment-là. Parce que quand on parle de Salomon, qu'est-ce qui vous vient en tête? Je suis sûr que vous pensez à 1 Roi 11-3. Je suis sûr. Où il est écrit, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. C'est ça qui vient, non? Et ça décrit la situation de Salomon à la fin de sa vie. Mais avec la Sulamite, nous sommes au début. Et c'est sa première épouse, son premier amour. C'est ce que je crois, comme plusieurs commentateurs comme moi, Lewis, Oliot et compagnie. Alors après bien des réflexions et des lectures, je suis arrivé à la conclusion, il faut expliquer quand même ce qui se passe ici dans ces versets, vous êtes d'accord ? Puisqu'il parle de reine, il parle de concubine. Mais je suis arrivé à la conclusion qu'il me semble que les reines et les concubines dont il est question dans le verset 8 sont les reines et les concubines de David, qui n'ont pas disparu à sa mort et qui habitaient dans le palais. On ne connaît pas le nombre de femmes et de concubines de David. C'est vrai que dans la Bible, il nous est rapporté 8 noms de femmes de David, et il nous a dit qu'il a laissé 10 concubines garder le palais lorsque Absalom a voulu renverser le pouvoir. Ça, c'est des données que nous avons. Il est aussi dit dans 2 Samuel 5,13 que David a pris des femmes et des concubines à Jérusalem. Là, le nombre ne nous est pas donné. Ce n'est donc pas invraisemblable de penser que ceux de qui il est question ici dans ce texte sont ses reines et ses concubines, qui sont effectivement reines et concubines dans le palais. Et le bien-aimé indique donc que sa compagne est son unique de tout le palais. Et tous se réjouissent avec elle d'être l'épouse du roi sans aucune jalousie et un réel désir de bonheur pour elle. Le bien-aimé indique donc que sa compagne est son unique de tout le palais et tous se réjouissent avec elle d'être l'épouse du roi sans aucune jalousie et un réel désir de bonheur pour elle. Sa compagne est unique, au-delà de toute comparaison. C'est sa Miss intergalactique. Et il termine au verset 10 par une question. « Dans quelle attitude viens-tu vers moi, toi qui es terrible comme des troupes sous leur bannière ? Est-ce pour un jour de joie et une nuit resplendissante ?» Voilà la partie où on est dans cet accueil. C'est un accueil, il l'accueille, donc elle revient, mais il a une question quand même. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout cela ? Le conjoint qui a dû attendre pour être à nouveau ensemble est encouragé à cultiver le jardin et la relation en attendant. En fait, j'ai régulièrement constaté que lorsque j'attends ma femme, que ce soit pour des courses, pour des moments intimes ou quoi que ce soit d'autre, si je le fais en priant et en cherchant et en pensant à son bien, en fait, en cultivant notre jardin relationnel, j'avais toujours une meilleure attitude envers elle. Donc j'ai régulièrement constaté que lorsque j'attends ma femme, que ce soit pour quoi que ce soit, si je le fais en priant et en cherchant et en pensant à son bien, en fait, en cultivant notre jardin relationnel, j'avais toujours une meilleure attitude envers elle. Et c'est ce que nous voyons que ce bien-aimé qui accueille celle qui l'attend avec éloge et rappelle son amour du début, qu'il continue à avoir pour elle. Il lui assure qu'elle est son unique. Nous ne sommes plus au début du mariage ici. Il est important de continuer à avoir cette attitude si importante. L'épouse et l'époux de l'alliance sont uniques. Personne ne doit prendre cette place, même dans les pensées. Et si la tentation arrive, la première chose à faire est de courir vers celui qui a uni le couple, vers l'Éternel, et lui demander la force d'écarter ce qui pourrait nous éloigner de notre conjoint. Et si ces tentations arrivent, ne pas les nourrir. Et si on les nourrit, il faut absolument se repentir, demander pardon et vivre les 7 A de la repentance qui libère. Bon, si les derniers mots vous n'avez pas compris, il faut aller retourner à l'enseignement R2 de l'artisan de paix. Bon, vous pouvez me demander. Ah, d'ailleurs, en passant. J'ai fait un petit canal dont vous pouvez avoir le lien sur ERBN Info, où vous retrouvez les prédications de base à écouter, dont l'artisan de paix. Là, vous pouvez les avoir directement sur Telegram et les écouter. Donc, comme ça, vous les retrouverez encore plus facilement. Revenons ici. Le bien-aimé qui n'a Dieu que pour sa compagne dialogue avec elle. Et il dialogue. Et il lui demande, il ose lui demander, avec quelle attitude elle vient vers lui. Parce qu'il sait qu'elle peut être terrible comme des troupes sous leur bannière. Il le sait. Donc il lui demande. Et c'est important dans le cadre du couple de dialoguer, d'être vrai dans ses attitudes et dans ses intentions. Bien entendu, cela nous fait aussi penser à notre relation spirituelle avec Jésus-Christ. Lui a toujours une bonne attitude lorsqu'il attend que nous revenions à lui. Ça, on n'a pas de risque de ce côté-là. Et nous pouvons être certains que lorsque nous nous approchons de lui, il va nous accueillir avec un amour qui saura nous rassurer, nous encourager à rester vers lui. Donc nourrissons notre amour pour Jésus-Christ en nous rappelant constamment qui il est, ce qu'il a fait et ce qu'il continue à faire pour nous. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi on nous envoie les mêmes publicités des dizaines ou des centaines de fois? Vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi? C'est parce que nous avons besoin de rappels constants pour en être imprimés et penser que cela fait partie de nous. Pourquoi nous ne ferions pas cela avec Jésus-Christ? Pourquoi nous ne lirions pas régulièrement Éphésiens 1, nous rappelant que c'est comme une lettre d'amour de Christ qui nous dit qui nous sommes en lui? Il y a ce qu'on appelle le brainwashing, c'est le lavage de cerveau. Alors certains disent que de regarder beaucoup de choses sur Jésus-Christ, c'est un lavage de cerveau. Ben je suis d'accord, parce que ça me rend propre. Par contre, ceux qui regardent toutes ces choses qui éloignent de Christ, ça ne s'appelle pas un lavage de cerveau, ça s'appelle un salissage de cerveau. Et ça, c'est à nous de choisir. Quelle grâce de pouvoir imprimer Christ sur notre cœur. Et après l'accueil du bien-aimé, qui lui rappelle les paroles d'amour de leur nuit de noces et la questionne sur son intention et son attitude dans son retour, la compagne répond aux versets 11 et 12. Il y aura un rétablissement ici. Versets 11 et 12, elle le rejoint dans le jardin, elle vient dans leur relation avec une attitude d'observation et d'écoute. Vous pouvez regarder les versets 11 et 12. Elle vient voir si le jardin est plein de vitalité et annonce des fruits. Et elle indique que son désir agit sur elle. Je vous accorde que le verset 12 est difficile à comprendre, mais je peux vous rassurer. Tous les érudits et commentateurs disent que c'est un des versets les plus difficiles à comprendre dans la Bible, à interpréter. Donc, je n'ai pas la prétention de vous l'interpréter d'une manière juste, claire. Par contre, on voit quand même que son désir est là, qu'elle est revenue dans leur relation pour une proximité avec lui. Il y a quelque chose qui est assez clair de ce domaine-là. Après, les détails avec ses chars et tout ça, certains font des liens avec le début de char, de l'arrivée du mariage, etc. Je ne m'avancerai pas. Mais si ça vous déçoit, désolé. En réfléchissant aux relations de couple, souvenez-vous que même célibataire, beaucoup d'éléments relationnels vont être vécus dans les amitiés. Quelle grâce lorsque la paix est annoncée et que la réconciliation est vécue. La compagne n'attend pas que le bien-aimé devine que tout est en ordre. Elle ne le fait pas languir. Elle est claire, elle le dit. Elle est revenue dans le jardin de délices et veut y goûter. La compagne n'attend pas que le bien-aimé devine que tout est en ordre. Elle ne le fait pas languir. Elle est claire et le dit. Elle est revenue dans le jardin de délices et veut y goûter. En fait, laisser planer le doute qu'un conflit est réglé ou non, c'est vouloir garder un moyen de manipulation et souvent une manière de pourrir une relation. Chacun ne sachant plus si le dernier conflit est réglé ou non. Il est important de ne pas laisser planer le doute. Ce conflit est réglé. Passons à la suite. Et avec notre Seigneur Jésus également, il est important de lui dire que nous revenons dans le jardin de l'intimité spirituelle, que nos désirs sont portés vers lui. Avec lui, nous savons que ce qui est réglé et pardonné ne nous reviendra plus jamais à la figure. Ça, c'est sûr avec le Seigneur. Nous pouvons à nouveau nous réjouir de sa présence sans aucune arrière-pensée. Quand on revient dans ce jardin relationnel avec le Seigneur par la repentance, on est certain que ça sera parfait avec lui. On pourrait être paisible, on pourrait être confiant. Il n'y a plus d'obstacle pour vivre à nouveau l'intimité qui, au fil du temps passé ensemble dans la réconciliation, devient plus forte, plus saisissante et plus satisfaisante. Et c'est là qu'on arrive justement dans notre deuxième partie, le délice d'une relation réconciliée, le chapitre 7, verset 1, au chapitre 8, verset 4. On voit au début le cœur qui dit « Reviens, reviens, Sulamite hein ». Il veut la retenir pour la contempler. Et il est intéressant d'ailleurs de noter, en passant, que c'est la première fois que le terme « Sulamite » est utilisé et que Salomon, le bien-aimé, va l'utiliser également comme écho pour lui donner une légitimité. Or, pour ma part, je pense que c'est la féminisation de Salomon, ce qui indique une unité. Le bien-aimé et la compagne sont devenus un, dans une relation pacifique et paisible, qui sont d'ailleurs la signification de ce nom. Pour nous plonger dans cette deuxième partie, eh bien, je vais de nouveau vous lire une paraphrase de tout ce texte pour qu'on puisse un peu saisir et comprendre ce qui est dit dans ce texte ici. Et puis ensuite, nous allons voir cela en plusieurs parties. Alors le cœur commence à chanter. « Nous t'avons aidé à chercher ton bien-aimé. Nous voulons continuer à te contempler. » Et là, c'est lui qui répond. « Laissez-nous seuls avec celle qui porte mon nom. Oh, ma Sulamite, tu es désirable des pieds à la tête. Tes attributs de fertilité et de plaisir me font tourner la tête. Tu es la seule que je désire et avec qui je veux vivre l'amour conjugal. » Elle lui répond, « Les délices de l'amour m'enivrent. J'appartiens à mon bien-aimé qui me désire tel que je suis. J'aime aussi prendre des initiatives dans notre romance. Je me réserve pour toi. J'ai tellement envie de te montrer mon amour comme lorsque je bisouillais mon petit frère et que tout le monde trouvait cela chou. Je vais vivre l'amour conjugal avec toi. Oh, le désir est tellement fort et inarrêtable que je veux rappeler à ceux qui ne sont pas mariés qu'il ne faut pas réveiller le désir avant l'heure. » Le bien-aimé ici, hein, en disant « qu'avez-vous à regarder ?» indique qu'il veut être seul avec sa compagne. Comme les couples mariés ont parfois besoin de dire « oui, mon épouse ou mon mari sont dignes d'attention, c'est vrai, mais maintenant nous avons besoin d'être les deux dans notre jardin. » Et là, dans ce temps intime, chacun pourra s'exprimer et vivre les délices d'une relation réconciliée. Alors on voit dans les versets 1 à 10 les délices des désirs exprimés. C'est en fait le texte le plus explicite concernant la relation conjugale dans ce livre du Cantique. Et il est intéressant de noter que cette description n'est pas la description de la nuit de noces, mais de plus tard. Si la nuit de noces est une étape importante, qui peut être délicieuse si elle est bien préparée, n'est pas l'apogée de ce qu'un couple peut vivre dans le domaine. Et contrairement à ce que la société nous indique en nous faisant croire que c'est plus gratifiant d'avoir des relations sexuelles hors mariage, c'est dans le mariage, avec une relation réconciliée, que les délices sont vécus, se connaissent toujours mieux et en apprenant à toujours mieux se respecter et prendre soin l'un de l'autre. Soyons conscients de l'influence de la société actuelle. Je vais vous faire un peu réfléchir maintenant. Est-ce que vous avez déjà vu une tendance générale dans les films, les articles de journaux, les émissions TV ou autres podcasts pour souligner que la sexualité des couples mariés fidèles est pimentée de joie, de passion et de satisfaction? Je vois plutôt que le mariage est déprécié. Et que c'est le fait d'essayer de ne pas avoir de responsabilité, de ne pas s'engager, et même le comble de dire que c'est de l'amour que d'accepter que son partenaire puisse aller avec quelqu'un d'autre. C'est ça qui nous est présenté. Et ça, c'est l'inversion de l'amour véritable. L'amour véritable, s'il est totalement tourné vers l'autre et entièrement lié par la fidélité, il est entièrement lié par la fidélité et la jalousie de l'exclusivité qui est une réalité positive dans la Bible. Dieu est l'exemple, lui qui manifeste un amour parfait. Dans le contexte de l'amour véritable, fidèle et exclusif, dans une relation réconciliée, la passion ne disparaît pas. Au contraire, elle peut s'exprimer encore plus intensément, sans honte, avec bienveillance et plaisir, avec une joie patiente, remplie de contentement. Dans le contexte de l'amour véritable, fidèle exclusif, dans une relation réconciliée, la passion ne disparaît pas. Au contraire, elle peut s'exprimer encore plus intensément, sans honte, avec bienveillance et plaisir, et une joie patiente remplie de contentement. Ici, le bien-aimé souligne qu'il est enchaîné dans les ondulations de sa compagne. Mais quelle grâce que ces liens d'amour! Ses yeux, sa pensée, ses sens n'ont qu'une direction pour vivre ce plaisir, sa compagne qu'il décrit avec passion. Le bien-aimé, dans sa description, souligne plusieurs éléments. Il souligne aussi des éléments de fertilité, ce qui remet l'acte conjugal dans sa perspective d'éventuellement avoir pour produit une nouvelle vie. Le bien-aimé, dans sa description, souligne aussi plusieurs éléments de sensualité, de passion, ce qui remet l'acte conjugal dans sa perspective de vivre un sommet de plaisir. L'un n'exclut pas l'autre. Le bien-aimé est passionné. Alors ça, vous n'avez peut-être pas pu le voir dans la première lecture, mais quand on sait qui parle, ça nous aide. Hein. Il est passionné et en fait, il ne peut terminer sa phrase. Parce qu'en fait, c'est sa compagne qui continue. La compagne termine sa phrase pour indiquer que ses délices sont partagées. On le voit, il faut juste que je retrouve. Merci, verset 10. « Et ta bouche comme le vin du bonheur. » Et puis là, c'est elle qui continue. « Il coule tout droit pour mon bien-aimé. » Il glisse sur les lèvres, etc. Donc il y a une synchronisation, une symbiose qui est vécue ici, qui est encourageante. Donc quelques réflexions pour les couples avant d'aller sur ce que dit la compagne, ou la sulamite. Hein. Pour les couples, une question se pose. Est-ce que notre relation grandit dans la passion, l'un pour l'autre? Il ne s'agit pas de fougue ou d'exploit, ne me comprenez pas mal, mais d'un approfondissement, de l'affermissement des liens qui unissent le couple. Et si ce n'est pas le cas, ben on peut se poser quelques questions. Est-ce un travail trop prenant qui tue le couple et la famille? À propos de travail, j'aimerais vous rappeler quand même qu'on peut facilement vous remplacer dans votre travail. Tandis que on ne peut pas vous remplacer en tant que mari ou en tant qu'épouse, ou en tant que père ou en tant que mère. Ou encore, sommes-nous trop influencés par la société qui décrit toute forme de sexualité comme plus épanouissante que le mariage? L'herbe est plus verte ailleurs. Ou est-ce que nous sommes encore enchaînés par... Non, c'est plutôt positif. Hein. Est-ce que nous sommes encore enchaînés par le corps de l'autre? Ce qui est certain, c'est que dans notre relation spirituelle, c'est que Jésus-Christ est complètement enchaîné par l'amour qu'il a pour l'Église pour laquelle il a donné sa vie. Complètement. Jésus est passionné par chaque aspect de la beauté de l'Église et il ne cesse de l'observer, de s'en réjouir. Jésus est passionné par chaque aspect de la beauté de l'Église, il ne cesse de l'observer et de s'en réjouir. Est-ce que nous sommes conscients que Jésus désire vivre dans l'intimité spirituelle avec nous, qu'il nous voit comme désirables, car il nous voit au travers de son œuvre? N'hésitons pas à prendre du temps avec notre Sauveur et Seigneur et à manifester notre joie de partager ses délices. Comme le fait la compagne de le Cantique des Cantiques dans les versets qui suivent, versets 11 et suivants du chapitre 7, que j'intitule les délices des désirs partagés. Elle entre dans la joie des délices décrits par son bien-aimé. Elle n'est pas passive. Elle rappelle à nouveau les fondements. Vous avez vu, elle dit de nouveau, « Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. » Une petite variante, mais c'est toujours la même notion qui est là. Elle fait des propositions à son bien-aimé pour vivre des moments forts ensemble. C'est d'ailleurs la première fois qu'elle prend l'initiative pour l'intimité ici. La relation du couple se développe. Et c'est vrai que le verset 1 du chapitre 8 m'a fait bien réfléchir et lire bien des commentaires pour le comprendre. Hein. « Oh, si tu étais mon frère nourri au sein de ma mère, je te rencontrerais dehors, je t'embrasserais et l'on ne me mépriserait pas. » Ça veut dire quoi? Bon, dans la paraphrase que j'ai dit tout à l'heure, vous avez déjà une piste. Hein. Or, il est unanimement reconnu que des manifestations d'affection très démonstratives en public n'étaient pas bien vues à l'époque. Mais j'ai l'impression que c'est encore le cas actuellement. Si un couple fait une démonstration très démonstrative, il y a un petit malaise. Même si on n'est pas contre. Mais lorsque la grande sœur prend son petit frère qui allait encore dans les bras, lui fait plein de bisous, l'enlace tendrement, le cajole et tout ça, personne n'est dérangé. C'est plutôt mignon. Eh bien, c'est à cette image que la compagne pense, à mon avis, dans ce texte. Car elle a envie de manifester son amour de manière démonstrative à son bien-aimé. Emportée ensuite par ce désir, elle pense à ce qu'elle pourrait vivre avec son époux dans l'intimité conjugale et le lui fait savoir. Donc, quelques réflexions pour nous. En fait, j'espère que c'est pas nouveau ce que je vais dire là. Hein. Si c'est nouveau, il faudra beaucoup travailler sur le sujet quand même. Dans le couple, la joie de la sexualité n'est pas seulement réservée au mari, mais aussi à l'épouse. Dans le couple, la joie de la sexualité n'est pas seulement réservée au mari, mais aussi à l'épouse. Cela signifie donc deux choses. Le mari se donnera de la peine pour accompagner son épouse avec patience, grâce, passion et bienveillance pour chercher son bien. Et deuxièmement, l'épouse s'autorisera à vivre le plaisir du cadeau de la sexualité que Dieu donne et communiquera avec son époux pour l'aider à bien l'accompagner, alors qu'elle-même cherchera aussi le bien de son mari. Vous savez, dans les couples chrétiens, il y a des caricatures. J'espère que ce n'est pas trop vrai souvent, mais... Que la sexualité n'est qu'un devoir, le devoir conjugal, qui permet d'avoir des enfants. Ou pire, est vu comme sale et ne faisant pas partie de sa vie, de la vie, d'une vie de sainteté. Et en même temps, des hommes et des femmes, dans la foi chrétienne, cherchent le plaisir solitaire. Quel drame. La sexualité est un acte d'adoration. Nous en avons déjà parlé. Et je continue à vous encourager à lire le livre « Une sexualité made in Dieu » de Paul David Tripp ou d'écouter la conférence qu'on a eue. L'acte conjugal est un lieu saint où chacun cherche le bien de l'autre à la gloire de Dieu, adorant Dieu pour ce don qui parfois nous fait comprendre encore mieux ce que signifient les délices dans une relation et un cadre donné par Dieu pour le vivre. L'époux, comme l'épouse, peuvent prendre des initiatives. Le texte que nous étudions aujourd'hui dans le Cantique des Cantiques le souligne et l'encourage. Chaque conjoint étant invité à instruire l'autre sur la manière qu'il reçoit le respect et les délices de l'autre. Ainsi, une profonde joie pourra être vécue. Et en pensant à cette relation avec Christ, quelle joie lorsque l'Église s'ouvre aux délices de la relation avec Christ. Lorsque nous cherchons à vivre une joie, un plaisir pur, autant grand que Christ a avec nous. Autant grand que Christ a avec nous. Nous entrons dans une dimension de paix, de joie, de bonheur, de tranquillité que nous ne connaissions pas jusque-là. Saviez-vous que Christ éprouve une grande joie à être avec ceux qui sont à lui? Il se délecte de la relation avec ceux pour qui il a donné sa vie. Il a déjà prouvé son amour et cet amour n'a pas diminué. Au contraire, il augmente de jour en jour. Ce n'est pas un devoir de vivre des temps d'intimité avec Jésus-Christ, c'est une joie. Ne cherchez pas des moments solitaires où vous lisez la Bible mais n'avez aucun contact avec Jésus-Christ. Vous cherchez machinalement des promesses, des encouragements, mais sans chercher de relation avec Jésus-Christ. Non. L'intimité avec Jésus, c'est un lieu où il nous donne beaucoup de joie et où nous sommes appelés à lui en donner beaucoup aussi. Vous avez déjà pensé à ça? On pense souvent à la première chose que je dis. Hein? L'intimité avec Jésus, c'est un lieu où il nous donne beaucoup de joie et où nous sommes aussi appelés à lui donner beaucoup de joie. Est-ce que Jésus a de la joie lorsque nous faisons notre culte personnel? Pourrait-il dire « Oui, il ou elle prend tellement plaisir en moi que j'en suis tout réjoui et elle ou lui cherche à me faire plaisir en parlant de moi d'une manière remplie d'amour et de passion ?» Eh bien, je prie que l'Éternel me donne et nous donne une passion pour Jésus-Christ encore plus grande que nous pouvons le voir entre le bien-aimé et la compagne dans ce texte de ce jour, qui présente la délectation de l'amour tout au long de la vie de couple dans le mariage. Le verset 4 du chapitre 8 nous fait arriver à notre dernière partie qui se répète plusieurs fois dans le livre du Cantique des Cantiques, qui est donc important mais que nous prendrons courtement. J'ai intitulé « Les désirs à ne pas réveiller avant l'heure ». En fait, c'est intéressant, on a déjà vu ensemble des autres fois, hein, quand la compagne arrive au désir, à la pensée de l'intimité conjugale, à la passion qu'il n'est plus possible de retenir, pause. Elle met le bouton pause. On a déjà vu ça à plusieurs fois. Elle refait ici. Elle met le bouton pause ici. Le bouton, pas le mouton. Le bouton pause. Et en fait, parce qu'elle veut dire quelque chose de très important. C'est magnifique ce que nous vivons dans le cadre du mariage. C'est un désir des plaisirs qui se bonifie lorsque c'est vécu dans une relation qui vit dans la réconciliation. Mais c'est tellement fort qu'il ne faut pas le réveiller avant l'heure. Nous avons beaucoup parlé de cette relation intime entre le mari et son épouse ce matin. Cela pourrait allumer un feu dans les pensées de ceux qui ne sont pas encore mariés. C'est pourquoi la Sulamite dit cet avertissement. N'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le souhaite. Ne nourrissez pas les pensées de ce que vous ne pouvez pas encore vivre maintenant, de détails et de romance. Non. Il est bon et utile de réfléchir à la relation du couple, de l'avoir en haute estime et comprendre toute la joie qui peut s'y trouver. C'est la raison du Cantique des Cantiques, il est là pour ça. Mais chaque chose en son temps. Si tu n'es pas marié, concentre entièrement tes pensées sur la relation avec Christ, magnifique, totalement satisfaisant et remplissant ton besoin d'être aimé et d'aimer. La pensée totalement centrée sur Jésus-Christ. En conclusion, aujourd'hui, nous avons vu le texte le plus fort, le plus explicite dans la Bible concernant les délices de la vie conjugale. Pour entrer dans l'intimité avec Christ, qui est ce qui est le plus précieux, le plus valorisant, le plus libérateur et répondant à nos besoins les plus profonds, nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu. Et cela se fait en reconnaissant son péché, en vivant à la repentance et en saisissant l'œuvre du salut par la foi. Et si vous ne connaissez pas l'intimité avec Jésus-Christ, je ne peux que vous encourager ou même vous supplier, puisque c'est une question de vie ou de mort, de venir à lui, de vous repentir de vos péchés, de saisir cette œuvre de Christ et d'entrer dans cette intimité qui sera libératrice, qui sera valorisante, qui deviendra la plus précieuse, qui répondra à vos besoins les plus profonds pour que vous puissiez faire face ensuite à toutes les situations plus difficiles que vous vivrez aussi ici-bas. Alors j'espère que nous avons pu atteindre ce matin au moins 4 objectifs. Alors je l'ai dit maintenant, j'aurais peut-être dû les dire au début, comme je fais souvent dans des cours au niveau pédagogique. Mais là, je les donne à la fin, on verra si on les a atteints. Le premier objectif, c'est aider chaque couple marié à comprendre l'importance de la réconciliation et la joie des délices de la relation conjugale que Dieu a donnée. Alors, réconciliation, on a vu ça au début, puis la joie des délices dans la deuxième partie. Deuxièmement, aider ceux qui sont célibataires à avoir une haute estime de l'acte conjugal dans le cadre du mariage et une très basse estime de la sexualité hors mariage. Troisièmement, aider tous les croyants à comprendre les délices de sa relation avec Christ. Et quatrièmement, aider les non-croyants à comprendre que la relation avec Christ est extraordinaire, qu'elle est stimulante, rafraîchissante et qu'elle nous comble réellement afin que nous vivions ou non la sexualité, rien ne nous manque. Nous sommes comblés. Et nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ta parole. Ta parole qui aujourd'hui peut être surprenante, parce que ce ne sont pas des textes que nous avons l'habitude de lire. Mais j'aimerais, Seigneur, te prier que ces textes deviennent plus une habitude pour la vie de couple, mais aussi pour saisir et comprendre cette joie et cette profondeur et cette grâce de pouvoir vivre dans l'intimité avec toi. Seigneur, ma prière, c'est vraiment que chacun ici ce matin, premièrement, saisisse que nous pouvons avoir de la joie à être dans cette relation intime avec toi. Que tu as de la joie avec nous. que nous nous réjouissons, que tu as de la joie avec nous et que nous pouvons, Seigneur, nous réjouir en toi. Tu le désires. Et j'aimerais, Seigneur, te prier aussi de bénir tous les couples de cette Église. Tu connais chaque situation, tu connais les besoins. Tu vois qu'il n'est pas toujours facile de synchroniser. Mais nous savons, Seigneur, que nous avons un fondement solide auprès de toi, celui qui unit, celui qui nettoie, celui qui encourage, celui qui remplit aussi tous nos vases de besoins que nous pourrions avoir. J'aimerais, Seigneur, te prier pour tous ceux qui sont seuls après avoir été mariés, qui sont veufs ou qui sont divorcés. Je te prie, Seigneur, de les bénir tout particulièrement. Et tu vois que ce n'est pas facile d'entendre ces choses par rapport au couple dans ces situations-là. Et j'aimerais te prier de donner une grâce toute particulière, de trouver en toi cette intimité afin qu'il n'y ait aucun manque. Et que tu puisses, Seigneur, vraiment cette joie et cette paix. Et je te prie, Seigneur, pour les célibataires qui pensent au mariage, qui peut-être un jour vont se marier, que tu puisses, Seigneur, les bénir chacun aussi. Et que leurs pensées soient tournées aussi vers Christ premièrement. Qu'ils recherchent la pureté, qu'ils aient le mariage en haute estime, qu'ils en aient une pensée positive et encourageante, et qu'ils aient une pensée complètement négative de la sexualité qui nous est présentée, qui n'a rien à voir avec ton plan. Aide-nous, Seigneur, à t'adorer, à t'obéir et à vivre dans leur relation lorsque nous pensons à la sexualité que nous le vivons. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.